France Culture.
Ça tourne.
Ok. Et maintenant, vous n'entendrez pas. Jacques Irénal et Marie Lozier voyagent dans des souvenirs de cinéma.
Bon alors Jackie, on va recommencer. On va recommencer déjà par le titre.
Ah, plus bien.
Alors on va recommencer. Tout d'abord, on va commencer par le titre.
Ouais, mais c'est où le titre ?
Alors le titre, c'est ce qu'il y a tout en haut. Je l'ai écrit juste devant en fait et c'est souligné également. C'est tout en haut de la première page.
Et maintenant, vous n'entendrez pas, c'est ça ?
Exactement.
Donc, vous me dites quand est-ce que c'est bon.
C'est OK pour nous, tu peux y aller.
Et maintenant, vous allez voir une fillette dans un train. Ensuite, je vous raconterai quelques petites histoires.
Et maintenant, vous n'entendrez pas. Et maintenant, vous n'entendrez pas.
Puis nous passerons à la séquence de la pharmacie.
Jacques Irénal et Marie Lozier voyagent dans des souvenirs de cinéma.
À la fin, il y aura une chute réelle.
Et maintenant, vous allez entendre deux femmes télétransportées dans l'espace-temps. Les années 40, 50, 60, 70, 80, 90, etc. Une petite fille perdue dans la campagne, une grande ville, des cris, des gens qui regardent des écrans dans le noir, l'esthétique qui se rebiffe, l'amitié, l'amour. Il était deux fois une femme en train de faire pipi devant une caméra, les pavés sous la plage, des négatives, des bobines, une usine à stars, à puff, à gauchistes et à féministes, et plein de feux d'artifice.
Mesdames, messieurs, bonsoir.
Madame, monsieur, bonsoir. Donc alors, donc je vais redire des choses où je le redis tout.
J'entends aussi, il y a...
Il y a
le
frigo.
Ouais, c'est le frigo.
Et là, il y a du bruit. Ouais, il y a des trucs que vous entendez. Il faut que je débranche, alors.
Alors, non, en fait, je vais te poser quelques questions. Alors, en fait, Jackie, ça se passe à quelle période Alors, attends. Non, alors, en fait, Jackie, tu es née en quelle année?
Je suis née en 1940, en octobre.
Jackie.
Oui. Je suis là.
Bon, comme ton autobiographie est inachevée, j'ai plein de questions pour toi. T'es prête?
Je suis prête.
Ok. Bon, t'as grandi dans une famille communiste. Comment cet environnement t'a donné des valeurs et comment tu es... C'était quoi ton rapport au cinéma à l'époque?
Oui. En fait, mes parents étaient très engagés politiquement. Moi, je me souviens qu'il y avait toujours un réfugié politique à table qui était sans papier à table chez nous. Il y avait... Il donnait des cours aux Espagnols qui ne savaient pas parler français, qui partaient de l'Espagne franquiste. Ils étaient très libertaires, ils étaient très ouverts. Surtout ma mère, qui était suffragette. Et elle m'a donné aussi énormément de liberté pour que je fasse des choses et tout. Donc, c'est les valeurs précieuses, quoi.
Et elle te parlait de cinéma, c'était quoi ton rapport au cinéma?
Non, alors le rapport au cinéma, en fait, c'était qu'on était à Montpellier, et Montpellier, il y avait énormément de cinéma, et mon père avait aussi un petit ciné-club pour la CGT, et il passait des films le samedi ou le dimanche, je ne sais plus, en 16 mm, voilà.
T'as un souvenir d'un film particulier?
Ça, j'ai le souvenir du film... En fait, si tu veux, quand j'étais toute petite, j'avais 6 ou 7 ans, la femme de ménage, Maria, avait une relation avec un projectionniste. Alors, c'était dans un petit cinéma qui s'appelait le Lynx. Elle me collait dans le cinéma et depuis la cabine de projection, elle pouvait me surveiller. Donc, le premier film que j'ai vu vraiment dont je me souviens en tout cas très bien, comme c'était d'hier. C'est le troisième homme.
C'est génial.
Alors, tu vois, oui. C'est génial, mais c'était terrifiant parce que c'est à Vienne, ça se passe la nuit, c'est très noir et blanc. Il y a de la neige, c'est tout ça, ça me terrorisait. Mais à la fois, c'était un choc, mais à la fois, ça me plaisait. Enfin, c'était, tu vois, ben, c'était le premier film, quoi.
Et quand tu es monté à Paris, au lycée Molière, à 15 ans, ça, comment tu t'es adapté à cette capitale, à cette ville, après avoir grandi là où tu as grandi? Et puis en plus, t'as pas d'accent. Des tournures rigolotes quand même.
Ouais. Ben justement, au lycée Molière, comme j'avais un accent, c'était pas chic, j'avais pas l'accent pointu. J'avais les cheveux frisés, on me prenait un peu pour une arabe. Enfin, c'était incroyable. À l'époque, c'était comme ça. Hein. Et j'étais pas bonne du tout. Je me suis fait renvoyer, en fait.
T'as c'était été où après?
Alors après, comme mes parents voulaient absolument que j'aie le bac, ma mère a payé pour aller dans une école de bachotage qui était le cours Marcel Proust. Et tiens-toi bien, le cours Marcel Proust était au-dessus du Champollion. Et l'un des élèves, c'était Jean-Pierre Rassam.
Ok.
Donc Jean-Pierre Rassam, c'est le grand producteur, est devenu un grand producteur. On était tellement indisciplinés que le proviseur nous donnait 2 francs pour aller au cinéma.
C'est génial.
Et en fait, c'est Jean-Pierre Rassam qui m'a emmené la première fois à la Cinémathèque de la rue d'Ulm. Et c'est vrai qu'à la Cinémathèque, à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à devenir cinéphile.
Mmh. Et tu l'as eu, ton bac?
Ouais, j'ai eu le premier bac, mais je n'ai pas eu le deuxième, donc ça ne sert à rien. J'ai fait une licence de lettres, que je n'ai pas finie d'ailleurs, toujours. Je finissais jamais rien. Alors qu'au montage, il faut finir.
Ouais, tu as fini tout ce qu'il fallait faire après.
Voilà. Je suis beaucoup allé au cinéma.
Surtout à la Cinémathèque.
Surtout à la Cinémathèque, oui, parce qu'en fait, c'était pas cher. Mm. Pour les étudiants, on n'avait pas beaucoup d'argent de poche. Et il fallait 1 franc et 1 centime. Ah. Et c'est là que j'ai rencontré Patrice Viers. Et c'est lui qui m'a dragué. Et c'est lui avec qui j'ai eu ma première aventure de cinéma. Et c'était un grand mec, très beau. Il faisait l'école de Vaugirard de cinéma. C'est lui vraiment qui m'a entraîné, qui m'a appris le cinéma.
C'est une aventure d'amour?
Ouais, complètement.
Et tu peux parler de ta première figuration Bonjour,
ah oui. Oui, ben un jour, moi j'avais 17 ans, je crois. J'étais à la Sorbonne avec. J'avais piqué la Vespa de mon frère. Et il y a un mec qui arrive et qui me dit: vous voulez faire du cinéma, mademoiselle? Parce qu'on tourne un grand film américain et on a besoin de figurants. Donc c'est comme ça que j'étais engagée dans Bonjour Tristesse, en fait, à cause de ma Vespa.
Pas mal. Tu t'en souviens de cette figuration?
Ah oui, très bien. Oui, c'était un énorme. Production, il y avait Otto Preminger n'était pas là, c'était la deuxième équipe, tu sais, qui faisait des plans à Paris, quoi. Alors tu me vois en fait tourner autour de la Sorbonne en Vespa, mais on me voit de très loin, on me voit pas. Et après je danse dans un club parce qu'il y avait une soirée avec un club au Tabou. Voilà, c'est tout. Alors, on me voit dedans. Hein. Et je suis arrivé à la maison. Alors, ils avaient, les Américains, pour payer les figurants, ils avaient une grande valise, comme ça, avec plein de cash, et ils te donnaient du cash. Et comme moi, j'avais une Vespa, j'ai été payé 3 fois plus cher que les autres figurants. Et je suis arrivé à la maison, j'ai mis sur la table peut-être la moitié du salaire de mon père. Toi.
Tes premiers pas dans le montage, la rencontre avec la nouvelle bague, ça s'est passé comment? Voilà la réponse.
Merci, Sophie. disqueuse.
Disqueuse, ouais, ouais, disqueuse.
Sauteuse, fait pas de même bruit.
En fait, si tu veux, c'est tout à fait par les amis. Enfin, Patrice a été caméraman sur un film qui s'appelait Le Tracassin. Mais il est devenu ami avec un garçon qui s'appelait Francis Boucher. Et ce Francis Boucher, il était monteur. Et on est devenus très copains et il m'a dit un jour, tu viens dans la salle de montage, je peux t'engager comme monteuse, comme assistante. Moi, le montage, je ne savais même pas ce que c'était, quoi. Alors, je suis allé dans la salle de montage, c'était à Lumifilm, en fait, la maison de production de Jean-Daniel Paulet. Et il m'a donné une boîte de pellicule, un truc de pellicule. Il l'a mis en perruque. Et après, il faut le remonter, il faut le re-rembobiner. Et c'est très difficile, parce que tu te mélanges les pinceaux, enfin, c'est compliqué, quoi. Il ne faut pas le déchirer, enfin, tu peux t'abîmer les mains d'ailleurs. Et j'ai été très habile. Et il m'a dit, oh là, mais tu es très habile. Et tu sais pourquoi, en fait, moi je trouve que la pellicule, c'est comme du tissu. Et donc j'étais habile de mes mains parce que j'avais déjà, fait l'apprentissage de la couture. Donc il m'a dit, ah ben écoute, je t'engage, c'est bien. Donc c'est comme ça, c'est par des amis que je suis devenue assistante stagiaire. Parce qu'à Lumifilm, ils m'engageaient tout le temps. Il y avait des films sur les animaux que, en fait, dirigeait Gérard Vienne. Oui, les films sur les animaux que dirigeait Gérard Vienne, en fait, sont après devenus des films que produisait Jacques Perrin. Jean-Daniel Paulet, en fait, il travaillait sur Méditerranée, dans la salle de montage qui était attenante à la salle où on montait les films sur les animaux. Et un jour, ils me disent, je vais déjeuner, est-ce que vous pourriez m'aider à nettoyer la copie de mon film ? Alors moi, j'étais ravi, tu vois, Jean-Daniel Paulet... C'était une icône pour moi, c'était quelqu'un de... Et d'ailleurs, dans Méditerranée, personne ne le visitait, personne ne savait qu'est-ce que c'était comme film. Donc j'y vais avec mes gants, mon velours noir, mon liquide pour nettoyer. Et puis, il avait tourné des... Méditerranée, la copie était un peu vieille. Du fait qu'il l'avait tourné déjà un an avant ou un truc comme ça. Mmh. Et je crois que le nettoyeur, enfin le liquide qui nettoyait, ça s'appelait Echo, je me souviens, a dû faire un espèce de procédé chimique. Et toutes les images qui étaient montées de Méditerranée ont commencé à avoir des effluves, des trucs comme ça. Oh ou à se défaire, tu vois, du montage, quoi, à faire des petits bouts de films comme ça. Donc quand il est revenu, j'étais en pleurs. J'ai dit, j'ai effacé votre film. Ah bon ? Vous avez effacé ? Oui, j'ai ce procédé. Regardez, alors il regarde, il prend la pellicule comme ça et dit... Mais non, c'est pas grave. De toute façon, le film était très, très sec. Vous allez, je vous engage, vous allez prendre les numéros de bord et on va retirer tout ce qui est endommagé. Et c'est comme ça que j'ai été assistante.
C'est génial d'être prise sur une grosse erreur.
Sur un truc qui était... Les autres metteurs en scène, ils m'auraient dit « foutez le camp, vous êtes renvoyé, quoi, tu vois ». C'était vraiment un gentleman. Et c'est comme ça qu'après, je suis devenue chef monteuse.
Et t'es restée en contact après avec Jean-Daniel
Paulet ? Ah ben oui, puisque après j'ai monté « Paris vu pas
ouais. ».
J'ai monté le film de... J'ai monté « Basset » aussi, mais je ne suis pas crédité, je ne sais pas pourquoi.
T'as été effacée ? T'as mis du produit.
Non, mais c'était pas. Je l'ai monté. Après, je suis parti en Amérique ou un truc comme ça.
Et j'ai pas suivi, si tu veux.
Ouais.
Des fois, tu n'es pas crédité parce que ils t'oublient.
Et tes années de 63 à 67, quand tu as monté les films, plusieurs films de Romère, 6 films de Romère, tu peux raconter comment était ta relation avec lui, la vie que tu avais qui était très moderne, puisqu'en fait, lui, quand même, les femmes qui habitent ces films sont très modernes aussi. Ouais. Quel était votre rapport?
Ben, en fait, Romère, moi, c'était... il était comme un martien, parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement réservé, un grand homme aux yeux bleus, perçant, qui parlait très peu, qui était très conventionnel, enfin très, très charmant, très, très bien élevé, et qui avait une telle connaissance du cinéma, parce que, n'oublie pas, à l'époque, il s'était fait virer des cahiers du cinéma par Rivette. Mais il y avait énormément de collaborateurs comme Doucher, comme Chabrol, qui venaient à la salle de montage. Et ils parlaient cinéma. Moi, j'étais une cinéphile, mais pas comme eux, tu vois. Longtemps après, quand Sally Chafteau a fait le bouquin sur Zanzibar, il m'a fait un grand compliment. Je dis, mais Romère, j'étais toute jeune, je savais rien. Et pourquoi vous m'avez gardée? Il me dit, non, vous étiez très intelligente et vous étiez surtout très ouverte. Je dis, bah oui, j'étais ouverte parce que je savais rien. Et vous refusiez jamais mes propositions. Et vous aviez un coup extraordinaire parce qu'il était derrière moi. Il adorait ma nuque parce que je portais toujours, j'avais des longs cheveux. Et j'étais, tu vois, j'avais une très longue nuque. Alors on s'est marré, quoi. J'ai dit, ah oui, ça a dû vous inspirer de Genoux de Claire. Donc lui, c'est vraiment un metteur en scène qui a fait que des films sur la jeunesse. Et pour la collectionneuse, moi je lui parlais beaucoup de Castel. Et il est allé un jour. Et c'est là qu'il a rencontré Daniel Pomerol. Et c'est comme ça qu'il l'a engagé, parce qu'il voulait vraiment avoir l'ambiance de ces jeunes qui allaient chez Castel. On allait tous chez Castel pour danser, pour boire. Et Haïdé aussi allait chez Castel, mais il ne l'a pas rencontré comme ça, Haïdé. Il l'a rencontré parce qu'il cherchait un appartement, Romère. Et il a trouvé un appartement grâce à un agent immobilier qui était Haïdé Politoff. Et quand il est venu dans ma salle de montage, il m'a montré, il m'a dit, voilà, c'est elle. Je montais Paris Vipart, c'est elle qui va jouer. Je dis, mais elle est pas actrice. Non, elle va jouer très bien. Et elle joue très bien, et c'est son premier rôle. Et il l'a très bien dirigé, évidemment. En fait, c'est un film... machiste et féministe à la fois. Parce que ça donne l'idée d'une femme qui se débat devant deux machos, mais qui s'en sort très bien. Et moi, je trouve que c'est un de ses meilleurs films, qui est un film quand même assez radical, parce que ce sont les personnages qui ont fait leur dialogue. Il leur a donné à chacun... le droit de dire ce qu'ils voulaient. Et ils ont beaucoup répété, hein. Ils ont énormément répété, mais n'empêche que Daniel Pomerol, c'est Daniel Pomerol.
Mais alors, il était peintre.
Il était peintre, oui. Il était peintre, et occasionnellement, on l'a vu aussi dans le film de Godard, dans lequel il jouait. Je ne sais plus le nom du film. C'est Weekend, je crois. Voilà.
Ok, c'est parfait.
Justement, j'allais le dire, c'est quand même pas n'importe qui.
C'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est très ambivalent, parce que c'est quelqu'un qui est à la fois féministe et pas féministe, qui a une idée sur l'art qui est inconventionnelle, qui est assez violent. Et il a gardé tout ça, je veux dire, il ne l'a pas rendu un personnage. Et c'est un personnage qui reste dans l'idée de 68.
Et le montage du film, tu peux en parler?
Oui, bien sûr. Romère, qui est très, très précis, il était allé sur les lieux du tournage un an avant pour enregistrer les sons avec son petit UR. Les oiseaux, les mouches, les rats, je sais pas, les sons de voiture, les ambiances, enfin tout ce que tu peux imaginer. Et à l'époque, il n'y avait pas de sonothèque. Oui, il y en avait une, mais c'était, tu sais, des sons au mètre, l'arrivée du train en gare. Il n'y avait rien. Il y avait Fano du service de la recherche qui avait un petit sonothèque, mais il n'y avait pas grand-chose. Et on a découvert que, en fait, les médecins étaient des grands connaisseurs de preneurs de sons d'oiseaux. C'était leur hobby. Et alors, dans la salle de montage, j'avais Romère qui téléphonait à des médecins et qui disait, oui, alors, je ne sais pas comment il avait trouvé ces médecins, enfin, il avait sans doute une recherche qu'il a faite. C'est pas la chouette de mars, c'est la chouette d'été, vous savez, celle qui rousse. Alors après, il disait, non, ça, c'est la mouche. La mouche de juin, tu vois. C'était à mourir de rire, tu vois. Oui, oui. Bon, bah, la mouche de juin, oh, ça le fera quand même, parce que finalement, c'est le même son, tu vois. On a passé des mois à trouver les sons, parce qu'il fallait tout. En plus, il fallait tout doubler. Je devais faire des boucles. Oh, merde. Des boucles sonores pour que les acteurs puissent doubler tout ce qu'ils avaient dit. Et ça prend un temps fou. Ça, j'ai doublé, j'ai fait des photos. Et Romère était très ouvert pour le montage. Mais je te dis, il y avait le montage d'images, tu n'avais pas grand-chose à faire. Il y avait deux prises parce qu'il y avait eu le micro dans le champ. Alors quand même, il ne pouvait pas laisser la prise.
Il y avait un rythme quand même à choisir.
Ah ben bien sûr, il y avait des plans qu'il fallait recouper, tout ça. Dès que tu as la bande son, tu transformes ton film aussi. C'est pas.
Ouais.
C'est comme ça. Mais il m'a dit, c'est vous qui faites le montage, moi je ne fais rien du tout. La musique, alors j'ai apporté des trompes tibétaines. Il disait, mais j'espère qu'on ne payera pas. Et Barbé a dit, non, vous en faites pas. On dira que c'est la radio de l'appartement d'à côté, donc on n'a pas à payer.
Tu peux me parler, Jackie, de ton arrivée, de la création des Zanzibars, ton arrivée à New York, enfin la vie que tu menais à cette époque qui t'a emmené après la collectionneuse, justement, dans un nouvel élan.
En fait, Zanzibar, c'est grâce à un jeune banquier, à l'époque, qui s'appelait Jacques Boissonnas, qui a produit le premier film Zanzibar. Il n'y avait pas encore le nom Zanzibar. C'était en 68, mais en mars, avril, c'était avant les événements. Et c'était prémonitoire de mai 68, parce qu'il y avait... ça se tournait en Nanterre la plupart du temps, dans des champs, enfin, des endroits un peu curieux très, de Paris. Mais donc j'ai monté le film, et c'est là, à la projection des bout à bout, qu'on a fait. Non, le film était déjà monté, que Jacques Boissonnas a été. C'était un désastre pour lui, parce qu'il croyait que c'était un film commercial. Alors il a vu un film d'avant-garde, très très difficile. Et sa sœur était dans la salle. Et sa sœur, c'était Sylvina Boissonnas, donc, a dit « Ah non, moi j'adore ça, il faut continuer, etc. » Et c'est là pour faire un film. Et c'est là que ça a commencé à être, pas une amie, mais à être une connexion, si tu veux. Et on allait chez Olivier Bosset, en fait, Olivier Bosset, il revenait de New York, de la Factory, et c'est Sylvina qui m'a fait rencontrer Olivier, parce qu'elle était amie avec lui, et lui, ce qui passait, c'était des petits films Super 8 qu'il avait tournés à la Factory de Warhol. Et nous, ça nous fascinait. Le petit groupe, donc, Zanzibar, avec Clémenti, avec Olivier Mosset, avec Sylvina Boissonnas, avec Patrick Deval, Daniel Pomol, enfin, avec Serge Barre et Philippe Garrel. Il y avait Philippe Garrel. On était médusés, quoi. On était étonnés, etc. On voulait trouver une autre grammaire que celle qu'on nous proposait. On voulait changer le vocabulaire.
Vous étiez aussi tous
le vocabulaire de cinéma.
D'autres médiums aussi, parce que c'est ce qui est beau avec La Factory, c'est que tu as autant des artistes sérigraphiques, de peintres, de musiciens, de chanteurs.
Oui, c'est ça.
Il y avait ça dans les Zanzibar.
Il y a ça dans Zanzibar aussi, puisqu'il y a Jean-Pierre Calfon qui faisait un groupe de musique avec Pardo. Il y avait donc Olivier Mosset qui faisait des ronds noirs sur un fond blanc. Il y avait tous... Il y avait vraiment beaucoup de mélanges de différentes cultures, de différents moyens de voir les choses, quoi. Et donc, on a fait un espèce de groupe comme ça. Et Sylvina nous donnait de l'argent pour faire acheter des caméras, des trucs comme ça. On finissait nos nuits à la coupole, et elle avait un carnet de chèques, et elle demandait s'il y avait quelqu'un qui venait à sa table. Elle disait, vous avez un projet ? Oui, oui, j'ai un projet de musique, ta, ta, ta. Vous avez besoin de combien ? 50 000. Toc, elle faisait un chèque de 50 000 euros. Enfin, tu vois, parce qu'en fait, elle voulait se dédouaner de cet argent. Moi, elle me disait, tu sais, cet argent, ça vient des mines d'or où les gens sont exploités, ils meurent à 30 ans. Moi, je lui disais toujours, en fait, tu veux te désembourgeoiser. En fait, c'est pas bourgeois, c'est super, super riche bourgeois. Après, sa famille, bien après, l'a arrêté. Par exemple, le télescope de Daniel pour faire photographier la Lune a quand même coûté 300 000 euros. Tu imagines ? Daniel, lui, il avait... Il voulait filmer Neptune. En fait, tu vois, des histoires complètement... C'était un objectif qui pouvait photographier... C'est un objectif de la NASA.
C'est les Zanzibar, ils sont à la porte. Et hop.
Et c'est quoi cette histoire de photographier Neptune avec Daniel Pomerol ?
Il était fasciné par Neptune, par la planète Neptune. Comme il avait tous les moyens, il a commandé à la NASA d'Amérique un télescope qui était grand, comme je sais pas, des mètres et des mètres. Et moi, je l'ai très bien connu parce que c'était mon petit ami qui l'a positionné dans le désert sur une plateforme, tellement il était gros. Et c'était un télescope...
Quel désert ?
Je sais pas si c'est le sud du Maroc ou le sud de l'Algérie, je me souviens pas très bien. Mais n'empêche qu'ils sont allés là-bas, en plein désert, pour voir justement, à l'œil nu, comment on arrivait à capter Neptune. Et ils l'ont pas capté, mais ils ont capté la Lune. Et dans Vite, on voit d'ailleurs on le voit Neptune aussi, je crois, dans son film qu'il a réalisé dans le désert qui s'appelait Vite.
Et d'ailleurs, toi qui es passé du montage, tu as quand même, grâce à ce groupe, réalisé ton premier film deux fois.
Oui, bien sûr.
Tu pourrais en parler un petit peu, comment tu es arrivé à...
En fait, moi je voyais très bien que Sylvina, à un moment... C'était à la fin de 68, elle se faisait quand même arnaquer, tu vois. Il y avait des gens qui prenaient son argent et qui achetaient une maison. Donc, moi, je voulais faire mon film quand même. Me venger de Patrick Deval, à qui j'avais donné... Enfin, j'avais produit avec Sylvina à Céphale. Et lui, il me trompait avec une petite maîtresse sur le film. Donc j'ai trouvé ça pas très sympathique. Et donc je voulais me venger. C'était l'idée au départ. Alors, pour l'argent, je me suis dit deux fois, je veux faire deux fois la prise parce que c'est contre je mettrais deux fois la même prise, comme si c'était normal. Voilà. Comme si ça... Alors la deuxième prise, c'est jamais la même, vraiment, mais c'est une répétition. C'est une espèce de révolte contre mon métier.
Un geste, quoi.
Une espèce d'expérimentation, quoi. Et puis aussi un truc féministe. Il était une fois un prince charmant. Ah, il était deux fois un prince charmant. Enfin, c'était, vous savez, quand on fait un film, c'est toujours plein de choses qui se passent dans votre tête. Et le titre, c'est... Alors, deux fois, je l'ai gardé. C'est pas mal comme titre.
Moi, j'aime bien.
Ouais.
Ouais. D'ailleurs, dans ce film, t'es dedans... Tu joues dedans.
Ouais.
Et puis il y a des scènes assez radicales aussi. Quand...
Ah, mais plutôt, ouais.
Ouais.
Non, j'ai tourné le film en 9 jours. Ça a été.
C'est rapide.
Mais c'était rapide, mais c'était. Comme je le dis, c'est un film polaroïd. C'est-à-dire, c'est un film qui est fait sur l'instinct, sur le moment. Il n'y a pas de scénario. Il y a un peu des histoires que je raconte. Mais c'est, si tu veux, c'est des histoires que j'ai écrites deux heures avant, ou la veille, un truc comme ça. C'est un film qui m'a énormément fait du mal, et énormément fait du bien.
Pourquoi bah oui, du
parce
mal
que c'était un film... Bah, c'était terrible, quoi. Tu vois, j'ai pas eu de montage après ça. Les metteurs en scène ne voulaient pas m'engager en France. Non, le film a eu un succès... d'estime, mais c'était choquant, quoi. Ah non, c'était... C'est en partie pour ça que je suis parti en Amérique. J'étais la fille qui avait fait deux fois, tu vois. Elle pisse dans ses culottes, elle est à moitié nue, quoi. C'est un programmateur du MoMA qui m'a dit ça. Vous êtes la première femme qui a pissé dans un film qui n'est pas porno. Enfin voilà.
C'est bien là, c'est chouette.
Ça va ?
Ouais. Ouais.
Oui. On n'entend rien.
Non, on n'entend pas.
on vous parle pas.
D'accord. C'est quoi leur machine là ?
Ah ça c'est bizarre. Hein.
Ouais, c'est marrant la farm. Hein.
Ah, c'est un truc pour... de son.
Bah ouais, puisqu'il y a des. Et tout pour des micros.
Ouais, ouais. Bon, bah. Oui, ça sonnait bien.
Ouais, ça sonnait bien. Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux. On va déjeuner, non ?
Bah attends, je vais attendre Yael pour lui demander, en fait.
Jackie !
Oui.
Le déjeuner était bon ?
Oui.
Alors maintenant, t'es prête. Après que tu aies fini le film deux fois dont on vient de parler, t'es partie, t'as vendu ton appart et t'es partie pendant 2 ans en road trip. T'as été à San Francisco, à Bali. Et quand t'es rentrée, bah, t'étais pas très bien, tu faisais pas de montage. T'es partie pendant 2 ans quand
même. Bah oui, parce que Romer, il m'avait remplacé. Si, je faisais des montages, je faisais des doublages pour des spaghettis western. C'était payé à la bobine, 100 francs à la bobine. C'était rien, quoi, tu vois. Mmh. Et donc, j'avais vraiment les boules, parce que j'avais pas d'appartement, j'habitais chez les uns, chez les autres. Et c'est là que j'ai eu le coup de fil de Sidney Geffen, que j'avais rencontré à New York, dans mon premier voyage à New York, qui avait vu mon film deux fois, et qui voulait que je fasse la programmation.
C'est comme ça que tu es reparti à New York, en fait.
C'est comme ça que je suis parti à New York. Il m'a dit, je vous paye... $1000.
C'est beaucoup hein, pour l'époque.
Ah bah oui, c'était énorme.
Ouais. Vas-y, raconte, parce que je sais que c'est ton premier mari, donc je voudrais savoir ton voyage vers le Blicker et la rencontre de Sidney.
Ouais, bah, le Blicker, en fait, il me l'a acheté pour moi. Parce qu'en fait, il m'a invité à dîner. Et il me dit au dîner, ah oui, j'ai qu'un seul écran, le Carnegie Hall Cinéma, il me faudrait un autre écran. Et en voiture, enfin en taxi, je suis passé devant le Blicker Street qui était noir, qui n'était pas allumé. Alors j'ai dit, mais moi le Blicker Street, je le connaissais parce que j'avais vu des films dans les années 60, dans mon tout premier voyage à New York. J'avais les films de Warhol, là. Mm. Chelsea Girl, Lonesome Cowboy. Et donc il écrit l'adresse, tout ça. Et deux semaines après, ou une semaine après, il me dit, voilà, j'ai acheté le Blicker, vous allez le programmer.
Tu sais que l'ingénieur du son qui est à côté de nous, il a habité à Blicker Street.
Ah bon?
Le Blicker Street, c'était vraiment un cinéma très très connu parce que, en fait, Andy Warhol avait passé ses films dans les années 60. C'était presque à l'angle de l'avenue qui mène à NYU, à New York University. C'était vers le West Side de Blicker.
Vers Mercer Street, non? Ou Broadway?
Oui, c'était pas loin de... En fait, oui, de Broadway, ouais.
Et tu pourrais me dire un petit peu plus sur ta relation avec Syd Gaffin?
Avec Syd Gaffin?
Bah ouais, parce que c'est devenu ton mari quand même.
Ouais, mais tu vois, c'était bien parce que, en fait, lui, c'était Carnegie Hall Cinema.
Ouais.
Et moi, c'était Blicker. Donc, on se voyait pas pratiquement jamais.
La relation de rêve, c'est ça?
On se voyait le soir pour dîner. Bon, ouais, de temps en temps, il venait au Blicker, mais si tu veux, on était très séparés l'un de l'autre et moi, il me laissait indépendante. Et il a jamais dit non à n'importe quel film. Et même India Song, il s'est endormi dans India Song. Je l'ai projeté et il me dit « Ah non, 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 c'est très très bien. » Je dis « Mais tu dormais tout le temps. » « Ah oui, ben justement, c'est très bien. »
Est-ce que vous avez connu le Loft ou le Paradise Garage? Ça vous dit quelque chose, non? C'est deux clubs. Enfin, le Loft, c'était pas vraiment un club. Un truc tenu par David Mancuso. Ça vous dit quelque chose, non?
Oui, 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 bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait.
Le mot loft, je crois, vient de ce concept-là, ouais, de fête privée.
Oui. Et oui, c'est tout à fait ça, parce que c'était, en fait, c'était des sweatshops, comme on les appelait avant que ça soit des lofts. C'est-à-dire, c'était des petits manufactureurs de t-shirts. Puis après, les artistes les ont investis. Ils pouvaient y habiter, quoi.
C'est ça, au début c'était illégal, il n'avait pas le droit de dormir dans son atelier, dans son loft.
Ouais. C'était gris, c'était pas, on n'était pas trop emmerdé, mais c'était...
C'était mal famé, non? Le downtown de l'époque.
Mais tout New York était mal famé, tout New York à l'époque c'était sale, c'était dangereux, et c'était pas cher. L'immobilier était très peu cher.
Et là on est en quelle année à peu près là?
Là, on est 73.
D'accord.
Ouais.
Okay.
73, 74. Alors, moi, au début, j'étais pas. Je voulais retourner en France. Et après, bon, le Blicker, ça a commencé à marcher. Parce que dans Newsweek, il y a eu un grand article qui dit. Le meilleur billet de cinéma de la ville, c'est le Blicker Street Cinema. C'est au Blicker Street Cinema. Et c'était la programmation que j'avais faite sur la nouvelle vague et la vieille vague. Je l'avais faite avec Penny Yates, qui n'est plus de ce monde, mais qui était... On avait fait un truc sur la nouvelle vague et les films d'Autant Lara, de Ville, tout un tas de cinéastes d'autrefois, quoi.
Les films de Romer, tu les as montrés?
Oui, bien sûr. Ouais. Charlotte sans steak. Il y avait des petits courts-métrages, tu vois. Mm. Et les gens ne sont pas habitués à voir des courts-métrages. Mais les gens sont beaucoup plus intelligents qu'on ne croit.
Tu veux un petit break, un verre d'eau, quelque chose?
Oh non, ça va.
Ou une cigarette, ou un truc?
Ah,
ou...
Ça va.
Ça va?
Ouais.
Ok.
Et alors, un jour, une anecdote, quand j'ai construit la salle... Le Blicker 2, c'est-à-dire la petite salle. J'avais fini de construire la salle. Enfin, pas moi, bon, elle était faite et tout. Mais il manquait l'écran. Et j'avais un film de Luc Moulet, je crois que c'était Billy the Kid, que je voulais montrer en première, ou en répertoire, je ne sais plus, à Jim Hoberman, qui était le critique du Village Voice.
Ouais.
Et comme j'avais pas de
d'écran,
j'ai mis mon drap de lit. J'ai accroché mon drap de lit. Et alors lui, il dit, alors vous êtes pas possible. Tu vois, on était aussi fous que ça, quoi. Mais les critiques nous ont beaucoup aidés. Parce que là-bas, tu connais. Mm. C'est les critiques qui comptent. C'est le New York Times, le Village Voice.
Le Village Voice.
Et le New Yorker. Ouais.
C'était quoi aussi le milieu, alors que tu montrais des films européens, c'était quoi les gens qui venaient, le rapport du cinéma ouais. d'avant-garde, qui était quand même celui ouais. que tu connaissais, que tu avais rencontré.
Il y avait à l'époque...
Avec Ferrara, Mospo, ouais. tous ces gens-là qui ouais. tournaient autour du Blicker ouais, quand ouais. même beaucoup.
Tu avais Patti Smith qui venait beaucoup, tu avais Susan Sontag, tu avais... et puis c'était tout près du CBGB.
Ah oui.
Donc il y avait beaucoup de musiciens qui venaient, il y avait aussi des gens du Living Theater qui venaient, tout ça. Donc c'était très artistique. Tous les gens qui étaient là, c'était des jeunes, enfin bon, moi j'avais quand même 35, 40 ans, mais des gens comme moi, quoi, tu vois. Et puis beaucoup de NYU, de New York University. Mm. En fait, Larry Kamerman qui m'a dit, moi j'allais plus à NYU, je venais au Blicker. C'est comme ça que j'ai appris le cinéma. C'est-à-dire, les étudiants de NYU, ils étaient nombreux, parce que c'est sur trois blocs, hein, NYU.
C'est immense.
C'est immense. Donc, il y avait NYU, il y avait la New School, et puis on avait aussi des événements. J'ai pas eu Romer, mais...
T'as eu Godard.
J'ai eu Godard, mais j'ai eu surtout Chabrol.
Oui.
J'ai eu... Rivette, de Almodovar. En fait, oui.
Il y a Chantal Ackerman qui est venue.
Il y a Chantal, il y a Ulrich Oettinger. Enfin, il y avait des metteurs en scène un peu moins, pas trop connus. Mais j'en oublie certains.
Duras.
Ah ben Marguerite Duras, oui, bien sûr.
Je me souviens aussi quand même, tu m'avais raconté que parce que tu avais cette liberté dans ce cinéma, et je sais comment tu bosses, il y avait aussi, par exemple, les premières bobines de Jim Jarmusch, les premiers Spike oui. Lee, ils venaient avec leur travail d'étudiant, et oui. que tu montrais, que tu oui. checkais pour eux, etc.
Oui, en fait, c'était une bonne idée, en fait. Parce que le deuxième écran, donc au Blicker 2, pour faire venir des gens, le lundi, j'avais mis une annonce dans le journal en disant « Quiconque a un film, prenez-le, je projetterai. » Et j'ai eu la chance d'avoir Jim Jarmusch qui est venu en sort projeter son film. Et j'ai dit « J'adore votre film et je vais le sortir. » C'est pareil pour Spike Lee. Spike Lee, il travaillait en haut. Il y avait une maison de production qui nous louait les locaux. Et il rangeait les copies et les nettoyait.
Okay.
Et donc, tu vois, c'est comme ça que j'ai fait démarrer la salle.
Et puis par la suite, tu as énormément programmé avec moi à l'Alliance française. Et
oui.
Énormément.
D'ailleurs, quand tu programmais à l'Alliance française, bravo, parce que tu as fait venir beaucoup, beaucoup de personnalités qui n'étaient pas forcément des réalisateurs connus ou quoi. Et ça a fait venir... beaucoup de jeunes.
Oui.
Vraiment, avant, il n'y avait que des vieux à l'Alliance française. C'était un peu comme la Cinémathèque où tu as beaucoup de vieux.
Alors, je voulais savoir, dans les années 80, quand tu tournes Hôtel New York, c'est ton moment new-yorkais, ton deuxième film.
Oui.
Tu peux m'en parler petit peu de ce... Et puis ta relation avec Sidney, c'était lié à lui aussi, parce qu'il est dans le film, si je me souviens bien.
Oui, en fait, New York, c'était d'abord New York Story.
Ah bah
et
oui.
après, j'ai fait Hotel New York. Oui,
ouais, j'ai mélangé.
En fait, New York Story, si tu veux... moi, j'étais allé voir un film de... Je ne sais plus, un metteur en scène dans l'anthologie qui disait « Mais moi, je fais des films à 2000 euros. C'est rien du tout, il faut... Bon... Alors je me dis, c'est pas possible, je vais demander une grant. Et en fait, j'ai eu une grant de 5000 euros. 5000 dollars, oui.
Quelle bourse c'était à l'époque?
Je sais plus, c'était une famille. C'était en fait...
Jerome Hill.
Jerome, voilà.
J'étais sûre. Ouais. C'était ma première bourse aussi.
C'était toi aussi?
Oui. Ah ouais. Premier petit film, le seul.
Il donnait pas énormément, mais 5000, c'était bien.
Bah, c'était beaucoup hein, pour l'époque.
Oui, oui.
Et c'est comme ça que tu as construit ce premier film à New York, quand même.
C'est ça, le premier film que j'ai construit. Je n'ai pas eu à avoir de maison de production. Quand tu es en 16, caméra à la main, tu n'as pas besoin de maison de production.
Et c'est Babette qui a filmé
ce... Et c'est Babette qui a tout filmé.
On sait Babette Mongol. Ok.
Ouais.
Tu l'avais rencontrée au Blicker?
Non, je l'ai contactée parce qu'elle était, elle enseignait, je crois, je ne sais plus où.
À la New York Film School.
Ah, c'est ça, voilà.
NYU.
Donc, je l'ai contactée, on s'est rencontrés, on a tout de suite... ça a marché, quoi.
Et c'est elle qui a fait elle connaissait, la caméra
elle
des
connaissait
deux films.
Le Blicker.
Ouais.
Et elle connaissait le Carnegie Hall.
C'est une belle rencontre, quand même.
Ouais.
C'est une grande chef opératrice.
Ah oui, oui. J'ai tourné dans des endroits qui étaient gratuits.
Oui.
Mais tout le monde était payé, quand même. Parce qu'on a tourné en très peu de temps. Et j'ai adoré tourner avec Babette Mongold, que j'admirais beaucoup, du fait qu'elle avait tourné le film d'Ackerman, Jeanne Dielman. Donc, tu vois, c'était quelque chose qui m'allait au cœur. Et elle comprenait tout, Babette. Elle était très...
Elle connaissait New York.
Elle connaissait aussi. New York. Elle connaissait bien les acteurs aussi. Elle connaissait... Bon, elle avait juste un assistant. On s'est très bien entendu. Ouais. Avec New York Story, j'ai gagné un grand prix de 6 000 $ à Melbourne.
Ok.
Alors je me suis dit, ben, tu continues. Tu fais ce que tu n'as pas pu faire dans New York Story. Il n'est pas très différent, mais c'est un peu comme un... C'est un peu comme un truc de Calder. Hein. C'est-à-dire que ça se répand, c'est un peu comme un mobile. C'est-à-dire qu'il y a certaines scènes, pas d'autres, d'autres qui changent. C'est intéressant d'ailleurs de voir les deux.
Qu'est-ce qu'il raconte,
ce... Il raconte ma vie comme monteuse à New York, ma vie d'immigrante. J'arrive à New York et je trouve du boulot comme monteuse sur un film gay porno. Et semi-porno, pas... c'était ça qui m'était arrivé. Et après, je me marie avec quelqu'un. Au bout de 6 mois, ça va pas. Je suis plus bien dans mes bottes. Et je lui dis, écoute, j'ai fait un rêve. Et en fait, le rêve, c'est que je veux un amant. Et lui, comme si je lui demandais un manteau de fourrure, il va me chercher un amant dans la ville.
Ouais.
Beaucoup d'humour grâce à Gary Indiana, parce que ouais. On a écrit les dialogues ensemble. Enfin, moi, je lui parlais de ma vie, et lui, il tapait à la machine. Et Gary Indiana, il vient de mourir, tu sais.
Oui.
Il joue dans le film. C'est un écrivain gay qui est très connu, qui était très fort en art. Il travaillait sur le Village Voice, je crois.
Oui. Jackie, en 95, il y a Jean-Luc Godard qui refuse le prix que lui attribue le New York Film Critics Circle. Et lui, il demande plutôt que le prix soit remis au Blicker Theater. Et comment tu as réagi à cette annonce, toi?
J'ai trouvé ça très gentil. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup bossé pour Jean-Luc. Hein. Enfin, le Blicker. Le Blicker, quand on a ouvert ici et ailleurs... On a eu les zionistes qui nous ont appelés, qui nous ont dit, si vous gardez le film, on vous met une bombe dans la salle. C'est un film qui a été commandité par la Palestine, et c'est un film sur les Palestiniens. Et moi, j'ai voulu le sortir avec numéro 2, et comment ça va? C'est une trilogie.
C'était quelle année, Jackie?
Ça, c'était... 84, un truc comme ça.
Okay.
Et donc, on a dû employer un garde, la nuit, qui était là. De jour aussi, il y avait quelqu'un qui était là. Ça nous a coûté une fortune. On n'a pas fait un sou sur le film, évidemment. C'était très cher.
Est-ce qu'il l'a su, Jean-Luc Godard, que tu avais employé?
Il l'a su, oui. Ouais. Ouais. J'ai eu des histoires incroyables avec Godard. Très intéressantes. C'est quelqu'un qui est à la fois assez autoritaire et très tendre. C'est un génie, quoi. Moi, je trouve qu'il est... tu vois. Mais il fait des coups pas possibles. C'est ça, hein, j'ai rien oublié. Donc il y a autre chose.
Souvent de la figuration aussi. Comment tu t'es retrouvée? Comment c'était d'être figurante film Yvonne Rainer, Pierre
Yvonne
Léon
Rainer, j'ai un rôle. Ça, je voulais absolument tourner avec Yvonne. Parce que j'aimais beaucoup son cinéma. Je trouvais que c'était très déjanté, mais très beau. Par contre, le film de Ferrara, dans lequel je fais un... Finalement, j'avais un rôle et puis ils m'ont coupé là. Mais les autres films, oui, c'était des... Oui, je suis une actrice ratée. J'ai fait beaucoup de films dans les années 80 comme actrice, ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça va, ça vous...
Ah, mais t'es impec, j'adore quand... Enfin, tu vois, je te suis dans la
tête.
Oui,
parce qu'il y a des trucs, j'oublie, je passe à autre
chose. Non, tu reviens dessus, en fait.
Je fais trop du coq à l'âne.
Non,
c'est mon défaut.
C'est vivant.
Et Marie, elle est arrivée quand à New York ?
À New York, elle est arrivée dans les années 90. Et je l'ai rencontrée grâce à Jonas Mekas. Elle est sortie d'une projection, on est allé boire un verre et déjeuner au bistrot. Et elle me dit, mais moi j'ai pas d'argent. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, je t'invite. Et après, on est devenus très amis. Voilà, c'est dans les années 90, 91, un truc comme ça.
En 95, et j'ai rencontré Jackie qui était déjà là, vraiment très peu de temps après. Et on ne s'est pas quitté, quoi. Hein. Ça a été,
ouais.
C'était ma seule copine française. Et on a fait des programmations avant, bah, Ocularis ensemble.
Ouais.
Puis on allait au cinéma, et puis j'allais chez toi tout le temps.
Ouais.
Et puis après, on a programmé pas mal de séries et tout ça à l'Alliance française ensemble. J'ai travaillé sur le tournage de tes films. Je t'ai accompagnée dans plein d'aventures, quoi.
Ouais, tout à fait. Oui, on se quittait pas à New York. On était là. Ouais.
Et tu m'offrais toujours, quand tu venais à l'Alliance française, j'avais droit à un bon dîner. Tu cuisinais hyper bien, tu avais toujours plein de gens qui venaient dans l'appartement et tu faisais des super soupes pendant que Joe fumait des joints et j'adorais l'ambiance. Et c'est vrai que c'était un peu un refuge pour moi parce que je vivais vraiment beaucoup... Enfin, c'était précaire. J'adorais la vie que j'avais, je regrette rien du tout, c'était extraordinaire, mais c'était très avant-garde, très underground.
Ouais,
et t'avais un accueil, quelque chose qui m'avait permis aussi, on aimait bien les mêmes communautés, les mêmes amis, donc il y avait un cercle qui nous avait permis de partager beaucoup d'expériences géniales.
Ouais.
C'est vrai qu'aussi, enfin, pour moi, très particulier à New York aussi, ce que j'entends dans tout ce que tu dis aussi, c'est que je suis rentrée en France et je suis atterrie à Paris en 2015. J'avais jamais habité Paris. Et c'était choquant pour moi de ne pas trouver... J'avais rien, je connaissais personne sauf Jackie. Donc on s'est retrouvés heureusement là. Mais être programmatrice, chercher des jobs de programmatrice, en fait, tu ne peux pas être réalisatrice et programmatrice. C'est genre interdit dans la culture française. Tu peux pas avoir plusieurs boulots. Alors qu'à New York, tu peux être programmatrice, artiste, serveuse, et laver les toilettes du YMCA. Et peu importe, il n'y avait pas de hiérarchie, il n'y avait pas de jugement, il y avait juste du travail, des rencontres, de ce qu'on était dans l'essence de chaque métier qu'on faisait, quoi. Et c'est vrai que c'était choquant pour moi de voir l'état de pensée de ce qui était du milieu, de ce milieu à Paris, en tout cas.
Ah oui.
Mais c'était nouveau pour moi. Et quand je t'entends parler, tu étais programmatrice, tu faisais des films, tu étais monteuse, tu pouvais avoir mille vies et tu pouvais être autodidacte et tu pouvais foncer dans des vies parce que la personne t'a donné cette chance, parce qu'il y a une vraie rencontre.
Ouais.
Et c'est très dur, je trouve, de le sentir, de le vivre, de le ressentir aujourd'hui, en tout cas.
Ouais.
En tout cas, ce que j'ai beaucoup retenu de l'expérience, de tout ce que tu as créé, vécu à New York, parce que c'est là que je t'ai connue, c'est qu'il y avait une telle liberté que tu as toujours eu très punk dans ton esprit, dans ta façon de mener le monde et d'amener les gens dans ton monde par passion pure de l'image en mouvement, de l'art, quoi, et des autres. Et ça a été une vraie leçon de vie, pour moi, en tout cas.
Ben, merci. Il y a eu beaucoup de bruit. Mais vous croyez que ça va être prenable? Ouais. Madame, monsieur, mesdames, bonjour. Messieurs. Bonsoir. Madame, monsieur, adieu. Mesdames, messieurs, adieu.
Venez, 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 vous asseoir. Ce n'est qu'une...
Et maintenant, vous n'entendrez pas, et maintenant, vous n'entendrez toujours pas, ma tournée des Barguets, new-yorkais avec Marguerite Duras. L'histoire sur Jean Renoir, l'histoire sur Jean Eustache. Comment j'ai été considérée par la critique féministe américaine comme une des toutes premières réalisatrices à avoir développé dans ses films une logique de female gaze. L'histoire du braqueur au pop-corn. Pourquoi j'ai arrêté le bliqueur. Mon road trip sur les routes de Californie et du Nouveau-Mexique. Delphine Seyrig, ma sœur siamoise, dans le film Freak Orlando d'Ulrich Oettinger. Comment j'ai été arrêtée pendant mai 68, après m'être déguisée en infirmière et avoir peint une croix rouge sur ma voiture pour mieux faire passer des manifestants blessés au-delà des barricades. Ma vie dans les communautés hippies. Ce que François Truffaut a dit du Bleecker Street, le festival d'Annay, le festival Rivette, le festival Chabrol. Mes premières puffs de H sur la musique des Who, mon travail avec la troupe de Merce Cunningham dans les années 60. Et maintenant, vous n'entendrez pas. Et maintenant, vous n'entendrez toujours pas.
For me, it was Kraper.
Jackie Reynal et Marie Lozier voyagent dans des souvenirs de cinéma. Proposé par Malik Boutebal, réalisé par Yael Mandelbaum, prise de son Andreas Jaffre et Grégory Wallon. Mixage Pierrick Charles. L'expérience Aurélie Charon et Inès Duperron. C'était bien? Ouais.
C'était super.
Ah bon?
Super, Jackie, hein, bravo.
C'était plus vivant, je trouve,
que l'autre. Ouais, c'était vraiment habité, en fait.
Bon. Vous voulez pas que je refasse quelque chose que j'ai loupé? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me le dites. Hein. Moi, je suis prête à revenir. Hein. C'est pas...